juste sorti du four
sur REC 103.7.
Chaud devant, l'émission culinaire plutôt épicée, présentée par Gilles. Des recettes, des témoignages, des rubriques poitevine, des tours de main, des conseils de chef et surtout de la musique. Le mercredi, retrouvez Chaud devant de 11h à 11h30 et en rediffusion le samedi de midi à 12h30. Et c'est animé par Gilles.
Bonjour. Quoi de neuf aujourd'hui? Dans votre émission préférée de la bande FM, il y a du très lourd. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les épices sans jamais oser le demander. Et là, il y a du dossier, et il est énorme, et vous le découvrirez en plusieurs épisodes, forcément. Ensuite, je ne parlerai pas d'agneau pascal, parce qu'en plus, en Poitou, on mange du chevreau à cette époque. Oh, pauvre petite bête, mais je n'ai pas l'esprit cartésien. Je vous propose cette année une nouvelle recette de pâté de Pâques avec une inhumation de taille. En plus, ce sont les vacances, et comme je ne suis pas un chéti drôle, vous avez droit à une deuxième recette pour le même prix. Et une autre de légumes qui décoiffent forcément. Et pour terminer, si on a le temps, ma petite rubrique légende et croyance du Poitou. Mais avant cela, forcément, on commence toujours avec de la musique et c'est toujours bien vu. C'est Thomas Fersen avec Bambi.
Bambi, un Jésus de 2 mètres, Bambi. Il faut le connaître, Bambi. Quand je le croise sur mon chemin, Bambi m'étrangle la main. Pas casser les jouets, Bambi. Pas casser les jouets, Bambi. Et puis quand il baille, Bambi. Putain, ça sent l'ail, Bambi. Depuis qu'il est gosse, ne connais pas la brosse. Pas casser les jouets, Bambi. Pas casser les jouets, Bambi. Et quand il s'endort, Bambi est un ange. Personne ne le dérange. Wow, Bambi, pas casser les jouets, Bambi. Pas casser les jouets, Bambi. Quand il y a une bagarre, Bambi, je suis le copain de Bambi. C'est moi qui balais par terre, trois mollets, un œil de verre. Pas casser les jouets, Bambi. Pas casser les jouets, Bambi. Et quand il s'endort, Bambi est un ange, tout le monde l'adore, personne ne le dérange. Wow, Bambi, pas casser les jouets, Bambi, pas casser les jouets, Bambi. Casser les jouets.
Eh oui, tout va bien. Donc, tout ce que vous avez voulu savoir sur les épices, sans jamais oser le demander. Donc, c'est tiré d'un livre, forcément, Le guide pratique des épices de Madame Inès Perret aux éditions du Livre Naturel. Voilà, c'est peut-être un pseudo, en fait. Qu'est-ce qu'une épice ? To be or not to be, une épice, ou quelle est la différence entre herbes culinaires ou fines herbes ou aromates et épices. Contrairement aux idées reçues, épice du latin species, substance ou denrée, est un terme culinaire, pas une catégorie botanique. Les épices sont les parties séchées des plantes aromatiques qui proviennent de l'écorce de ces plantes comme la cannelle, des bourgeons comme les clous de girofle, des fruits comme le piment, des racines comme le gingembre, des graines comme la noix de muscade, des gousses comme la vanille ou de filaments comme le safran. Et contrairement aux idées reçues, les épices ne sont pas toujours épicées, comme le curcuma ou la vanille par exemple. Les herbes culinaires sont les plantes herbacées, dont on utilise en cuisine sous forme fraîche ou séchée. Les feuilles ou les tiges, la partie pourvue de chlorophylle. Donc, lorsqu'on ajoute des feuilles de coriandre à nos carottes râpées, on utilise une herbe culinaire. Mais les graines de coriandre moulues qu'on met dans le curry sont des épices. Alors, comment les choisir ? C'est très simple. Lorsqu'on regarde des épices dans les yeux, impossible de savoir combien de temps elles ont mis pour arriver sur le présentoir réservé de votre magasin préféré. Ni depuis combien de temps elles se languissent dans leur petit flacon en verre transparent, bien exposé à la lumière, en attendant d'être adopté. Puisque la lumière, je vous le rappelle, c'est comme le vin, quand il est exposé en pleine lumière, les épices, elles font pas le figure, c'est le cas de le dire. Lorsqu'on sait que la moyenne est de 18 mois, mieux vaut s'approvisionner dans les magasins à fort débit avec une clientèle d'aficionados et pour la plus grande partie, elles sont vendues entières. Essayez le magasin indien du coin et les boutiques ethniques et spécialisées, voire les boutiques bio. Sinon, les épices, notamment de Cayenne. Non, les épices devraient toujours être achetées entières et moulues au moment où vous les utilisez. Mais ça, c'est pas facile. L'arôme et la saveur sont contenus dans les huiles essentielles et les sucres piégés dans les graines, les baies, les enveloppes, les racines, les écorces, les bâtons, etc. Le fait que de les moudre casse la structure. À partir de là, les huiles essentielles s'oxydent et se détériorent. Une vraie catastrophe qui laisse vos épices sur les rotules, complètement raplapla, sans saveur, sans odeur et décolorées. Et décolorées aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, par la lumière. Après une année dans vos placards, ces pauvres choses moulues sont bonnes à jeter. Rassurez-vous, elles ne sont pas avariées, simplement éventées. Mais dans ce cas, impossible de leur redonner leur saveur perdue. C'est foutu. Les épices entières, par contre, se conservent parfaitement de 3 à 5 ans. Par exemple, si vous avez des noix muscades, elles se conservent de 3 à 5 ans. Si malgré tout, vous préférez acheter vos épices en poudre, trouvez un revendeur qui les moue lui-même et qui les revend. Ça, c'est pas évident. Car hélas, il n'y a rien de plus plat qu'un paprika récolté, séché et moulu il y a quelques années. Et il perd en plus de la couleur, comme on lisait juste avant. La qualité originelle d'une épice a une incidence sur sa durée de vie. Dans votre placard, un produit de qualité gardera sa saveur plus longtemps. Alors pour les sélectionner, utilisez vos yeux d'abord pour la couleur qui doit être vive, vibrante et lumineuse. Éliminez sans pitié les épices ternes, éteintes et poussiéreuses, même s'ils peuvent être utilisés longtemps sans problème sanitaire. Elles ne sont au top que pendant une durée très limitée. Les épices fraîches comme le gingembre, le curcuma et les piments doivent être impeccables, sans marque bien brillante, fermes, lourdes et colorées. Alors imaginez un peu, vous avez donc par exemple des épices du piment moulu qui a une sale tête et qui franchement a perdu tous ses attraits. Eh bien c'est très simple quand même parce qu'il va quand même pouvoir vous servir. À quoi donc ? Eh bien tout simplement, si vous avez la chance d'avoir un jardin, eh bien vous entourez ce piment de vos salades. Et alors il empêchera, quand figurez-vous, quand un vilain escargot ou une vilaine limace viendra bouffer votre salade, eh bien il fera son rôle. Il sera un répulsif très puissant. Donc, rien ne se jette, tout se transforme. Et on utilise tout. Forcément, on est dans la cuisine, on utilise tout. Et je termine avec votre nez. Les épices séchées sont souvent plus parfumées, mais moins fortes que les fraîches. Fiez-vous uniquement à votre appendice nasal. Ignorez la date limite de vente, s'il y en a une. L'odeur doit être votre seul indicateur. Écrasez une petite quantité discrètement dans votre main et sentez. Si l'arôme qu'elle dégage n'est pas intense, riche, plein, envoûtant et immédiat, et si elle ne vous fait pas saliver et trembler d'excitation, oubliez-la. Elle a déjà perdu une bonne partie de sa puissance. Attention, vous évitez ce test avec le piment en poudre. Mais en fait, figurez-vous que souvent, eh bien dans les petits réservoirs à épices, si je peux m'exprimer ainsi, en verre ou en plastique, souvent, il y a toujours une opercule collante. Donc, pour arriver à sentir le piment, pas évident. Hein. Ou alors il faut carrément dévisser le bouchon. Vous faites ça discrètement, vous allez vous faire virer du magasin sinon. Mais sinon, voilà. Ben, on continue bien avec du blues. Can't Sleep at Night Undefined, c'est bien sûr Beau Weevil Band.
Night. Devant, l'émission culinaire sur ROC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Et maintenant, l'auditeur est très content parce qu'il va avoir droit à la recette. Et aujourd'hui, figurez-vous, il y en a deux. C'est formidable. Et donc, il est question du pâté de Pâques. Forcément, ça s'impose. Alors, la cuisson durera 30 minutes. Après, ça dépend des fours. Ça peut être 30 à 40 minutes. Alors, il vous faudra, vous avez de quoi noter, 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 5 g de sel fin, et 5 centilitres d'eau. Alors ça, c'est pour faire la pâte du pâté de Pâques. Puisque, comme vous le savez peut-être, c'est une tourte. Hein ? Quand on dit tourte, ce qui change par rapport à une tarte, tourte, il y a des pâtes dessus, dessous. Et c'est ça qu'on appelle donc une tourte. 500 g de gorge de porc hachée. Alors aussi bien, de la chair à saucisse fera très bien l'affaire aussi. Hein. Mais il vous en faudra quand même 500 g aussi. 50 g de farine. 5 à 6 œufs. Donc 5 œufs plus un œuf pour la dorure. 3 centilitres de cognac, donc ça environ une cuillère à soupe. Du sel, du poivre et puis des épices à Rabelais. Voilà, j'aime bien moi. Vous mettez des 4 épices si vous n'avez pas d'épices Rabelais. Mais les épices Rabelais, ça se trouve très facilement au rayon charcuterie de votre magasin préféré. Alors, vous déposez dans un saladier la farine, le beurre coupé en morceaux, le sel... À part, délayer le jaune d'œuf dans 5 centilitres d'eau et pétrir juste avant pour obtenir une pâte bien lisse. Mais n'oubliez pas de rajouter l'œuf avec l'eau quand même. Laissez reposer la pâte dans un endroit frais. Mélangez donc le porc haché avec la farine, le cognac, donc on vous parle de 50 g de farine, la farine, le cognac, assaisonné avec du sel et du poivre et la fameuse épice Rabelais. Détaillez cette farce en petits morceaux que vous roulez de la grosseur d'un œuf à peu près, hein, voyez, entre vos mains légèrement farinées. Ensuite, vous faites dorer ces boulettes de viande dans la matière grasse très chaude. Donc, vous déposez vos boulettes dans une grande poêle et vous appuyez un petit peu sur vos boulettes pour leur faire prendre une forme un peu plus de disque et un peu moins de boulettes. Mais quand même d'une bonne épaisseur, 1 cm à 2 cm. Donc, la matière grasse doit être très chaude. Lorsqu'elles ont la couleur voulue, c'est-à-dire un peu dorée, les égoutter et les déposer sur un plat garni de papier absorbant. Ensuite, dans la recette initiale, faites durcir les œufs. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui qu'on innovait. Et si on se fait un devoir de manger des œufs quand même, puisque c'est une tourte aux œufs. Aussi aux œufs et à la viande. Mais on va les casser et on les positionne délicatement entre deux boulettes de viande. Allez, on bouscule les habitudes, on innove avec ce pâté de Pâques. Parce que figurez-vous, je trouve, pour en avoir mangé ma part quand j'allais manger ce plat pendant mes vacances de Pâques chez ma grand-mère maternelle, les œufs sont cuits et recuits. C'est-à-dire les œufs, vous les faites d'abord durcir, ensuite vous les écalez, vous les coupez en deux et vous les positionnez dans votre tourte. Et avec votre tourte et votre viande, les œufs vont recuire. Et en général, ça devient caoutchouteux. Il faut faire évoluer la recette et la tradition dans le bon sens. Puisque c'est Pâques, on met des œufs forcément, je vous l'ai dit justement. Alors, il vous faut pour cela forcément le positionnement du deuxième disque sera délicat. Mais on n'en est pas encore là. Donc vous avez espacé vos boulettes de viande que vous avez mis dans le fond de sur votre pâte crue. Donc ça fait des espaces, entre chaque boulette il y a des espaces. Et dans ces espaces vous allez casser des œufs. Il vous en faudra au moins 5. Donc vous laissez 5 espaces. Si je ne sais pas si je suis très clair. Si vous reste un peu de viande hachée, vous la mettez dans le milieu tout simplement. Et puis donc vous cassez vos œufs et vous les déposez délicatement dans les interstices. Alors forcément le positionnement du deuxième disque est assez délicat. Hein. Alors, et pour ça, on va revenir à étendre la pâte brisée et la déposer dans un moule préalablement beurré et fariné. La piquer légèrement, la pâte doit dépasser les bords du moule de 2 à 3 cm. Découpez à l'aide de ciseaux ou d'un couteau l'excédent de pâte. Avec cet excédent, constituez un disque capable de recouvrir le moule. Coupez les œufs en deux si vous les faites durcir, mais là, on a dit qu'on les faisait pas durcir. Recouvrir avec le disque de pâte, donc délicatement comme je vous l'ai dit, et vous dorez à l'œuf battu à l'aide d'un pinceau et vous rabattez la pâte de l'extérieur vers l'intérieur et la dorez également. Vous rayez à la fourchette et vous n'oubliez pas de ménager une ouverture au centre. Toujours quand on fait une tourte, il faut toujours faire un trou, une ouverture au centre de la pâte. Vous faites un petit trou, vous l'écartez un petit peu et pour l'idéal, il faudrait faire une petite cheminée avec un papier de cuisson et vous mettez ça dans le trou. Mais bon, après, mettre à cuire à four très chaud, 30 minutes. Alors à four très chaud, d'accord, mais comme ça, c'est une tourte, donc elle va cuire plus longtemps qu'une tarte aux pommes, par exemple. Donc il faut quand même compter 40 minutes. Donc vous pouvez mettre ça dans un four très chaud au départ, et ensuite vous baissez le feu à peu près à mi-cuisson. Comme ça, la tourte va cuire à l'intérieur, bien comme il faut. Et là, ça devrait être assez goûtu. On retrouve bien de la chanson française, du rock, en la personne de Louise Attaque avec Léa. Mais un morceau tout tranquillou quand même.
Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur Terre. Elle n'est pas commode, non, elle n'est pas commode, elle n'est pas froide. Elle est pas chaude pour une nuit réaliste. Elle est pas créditeur. Elle est pas méchante. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire. Elle est pas comme ma mère. Elle est pas sagère. Elle est pas pacifiste. Elle est pas d'accord, elle est passionnée. Elle est pas fut-fut, elle est pathétique. Elle aime pas tout métique. Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire. Elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA. Elle a qu'à s'envoler. Léa, les parisiennes. Elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, les pas présentables, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé, elle est pas in shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable et ça, je voulais papa déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne. Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Le chou rouge au vinaigre balsamique et au gingembre, il en est question tout de suite maintenant. Le chou rouge est bourré de vitamines, y compris de vitamine B, de calcium, de flavonoïdes, ces merveilleux pigments antioxydants qui lui donnent sa belle couleur. Les pommes aussi sont riches en vitamines et flavonoïdes, puisqu'on les retrouve dans cette recette. Le vinaigre favorise l'absorption de toutes ces bonnes choses. Il vous faut une cuillère à soupe d'huile d'olive, 3/4 de tasse d'oignon rouge haché, un chou rouge émincé, très fin, 5 cm de gingembre frais, épluché et râpé, ou bien haché très fin aussi, une tasse de vinaigre de cidre, du sel, du poivre, 3 cuillerées à soupe de miel, 2 pommes épluchées et émincées, 3 quarts de tasse de vinaigre balsamique. Faites chauffer l'huile d'olive, ajoutez l'oignon, le chou et le gingembre et faire revenir en remuant sans arrêt pendant environ 2 minutes sur feu vif. Ajoutez le vinaigre de cidre et le miel, mélangez, couvrez et mijotez pendant 10 minutes. Quand on vous dit mijoter pendant 10 minutes, ça veut dire que vous baissez le feu. Il faut juste que ça plouc, 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 gentiment. Salez, poivrez et ajoutez les pommes et laissez mijoter pendant encore 10 minutes. De plus en plus en remuant de temps en temps. Ajoutez le vinaigre balsamique et vérifiez l'assaisonnement. Pour corser un peu, vous pouvez ajouter de l'ail. Et si vous préférez le chou caramélisé, faites-le cuire sans couvercle, en surveillant et en remuant sans arrêt. Vous pouvez remplacer le vinaigre de cidre par du vinaigre de vin rouge. Et quand je vous dis en remuant sans arrêt, c'est souvent en fin de cuisson qu'on a des petits problèmes. Si vous voulez caraméliser votre chou. Et on termine avec forcément de la musique. On n'aura pas le temps de parler des contes et légendes et croyances du Poitou. On verra ça la semaine prochaine. Toujours est-il qu'on retrouve en attendant le groupe Ramones. Et là, ça va vous ramener les tympans et les conduits Poison Heart. Vraiment, c'est embêtant, on va pas pouvoir l'écouter en entier, c'est dommage, on le retrouvera la semaine prochaine, c'est promis. En attendant, je vous dis salut, à la semaine prochaine, on vous dit tout dans mon superbe générique Chaud Devant, saison 2.
Tout juste sorti du four
sur REC 103.7,
Chaud Devant, l'émission culinaire plutôt épicée, présentée par Gilles. Des recettes, des témoignages, des rubriques poitevines, des tours de main, des conseils de chef et surtout de la musique.